Et nous continuons nos méditations dans le livre de Néhémie. J'ai toujours envie de dire le prophète Néhémie, donc le livre de Néhémie. Donc c'est notre avant-dernière méditation, puisque nous arrivons au chapitre 13, fin du chapitre 12, début du chapitre 13. Et Dieu voulant, nous terminerons le chapitre 13 la fois prochaine. Donc Néhémie 12 et 13. À partir du verset 17, il y a l'inauguration, on en parlera, de la muraille de Jérusalem. Et le verset 27 qui dit « Lors de l'inauguration de la muraille de Jérusalem, on alla chercher les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient pour les faire venir à Jérusalem afin de célébrer l'inauguration dans la joie, par des chœurs et par des chants, au son des cymbales, des luttes, des harpes. » On voit au verset 31 qu'il y avait deux grands chœurs qui se sont formés. Et puis, le verset 43 nous parle de la joie. Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices, se livrèrent à des réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Les femmes, les enfants se réjouirent aussi, et l'on entendait de loin la joie de Jérusalem. Et nous arrivons donc à notre passage du jour, au verset 44, que nous allons lire jusqu'au verset 9. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les prélèvements, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire, des villes, les parts assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. Car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de leur Dieu et le service des purifications, afin que les chantres et les portiers, selon l'ordre de David et de son fils Salomon. Car autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantre et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et au temps de Néhémie, donna les parts des chantres et des portiers jour après jour, afin que les parts sacrées aux Lévites, ainsi que les parts sacrées aux Lévites et les Lévites, donnèrent des parts sacrées aux fils d'Aaron, aux sacrificateurs. Dans ce temps-là, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des Israélites avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient soudoyé contre Balaam pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, qui était établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et qui était parent de Tobia, avait disposé pour lui une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du vin nouveau et de l'huile, ce qui était ordonné par les Lévites. Pour les Lévites, les chantres et les portiers, et le prélèvement pour les sacrificateurs. Donc c'est Néhémie qui parle. Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobia dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal. Je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobia. Je dis de purifier les chambres et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Seigneur, ta parole est éternelle. Ta parole est là pour nous redresser, pour nous consoler, pour nous avertir, pour nous purifier, pour nous exhorter, nous encourager. Seigneur, que ta parole puisse faire son œuvre dans nos vies. Amen. Alors, nous avons dans ce texte plusieurs choses, mais ça commence par la joie, on est d'accord. la joie générale. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai insisté sur cette joie hein, qui est déjà avant le texte hein, et qui est vraiment empreinte qui emprunte le début de ce texte. Tout commence par la joie, hein, une joie générale. Et donc, il y a eu la cérémonie d'inauguration de la muraille. On en parle depuis le chapitre 1. Hein. Et cette cérémonie commence au verset 27 du chapitre 12. Donc. Et elle se déroule, cette cérémonie, au milieu d'une grande joie. Deux cortèges formés de chanteurs accompagnés de trompettes prennent ensemble le départ, chacun de son côté de la muraille. L'un est conduit par Esdras, hein, dont on a un peu parlé, hein, mais dont on parle surtout dans le livre d'Esdras, tandis que Néhémie ferme la marche du second cortège. Et parvenus ensemble au temple, les deux chœurs donc font entendre leur voix et de grands sacrifices sont offerts au milieu de la joie générale. Bien. Et le verset 43 nous apprend trois choses à propos de cette joie. Tout d'abord, qu'elle a sa source en Dieu. Dieu leur avait donné un grand objet de joie. C'est Dieu qui était la source de cette joie profonde. Deuxièmement, que tous y ont part, hein, les adultes et les enfants. Hein, ce qui fait la joie des parents fait aussi la joie des enfants. Tout un peuple a part à cette joie. Enfin, la troisième chose, c'est que cette joie s'entendait au loin. Hein, puisque, voilà, hein, elle s'entendait au loin. Au-delà de Jérusalem. Hein, et elle avait une répercussion hein, auprès de tous. Le monde qui nous entoure peut-il voir et entendre que nous sommes des gens dans la joie, hein, la joie de Dieu. En tout cas, le texte d'aujourd'hui, hein, qui va rassembler maintenant notre méditation, nous plonge dans l'atmosphère des lendemains, hein, les lendemains de fête. On connaît les fêtes. Mais il y a des lendemains de fête. On connaît les dimanches, mais il y a les lundis. Et donc, il y a des lendemains de fête. Les lendemains de fête ne sont pas toujours très exaltants. On retrouve la vie ordinaire, avec sa routine, avec ses contraintes. On retrouve aussi parfois les tensions qu'il y a au travail ou en famille. On retrouve les conflits, oubliés pour un temps dans la joie de la communion et de la fête. Comme tout paraîtrait satisfaisant, comme tout serait bien, si le livre de Néhémie se terminait ici, se terminait par la cérémonie d'inauguration. Après tout, ça serait bien normal, ça serait une belle fin, ça serait une fin logique, parce que tout le livre de Néhémie parle de cette reconstruction de la muraille. Donc on terminerait par l'inauguration dans la joie merveilleuse. Et c'est vrai que Néhémie est venu à Jérusalem pour que les ruines du temple soient relevées. Tout le monde s'y était mis. La muraille a été réparée malgré les obstacles, malgré les ennemis, Tobia et tout ça. Et tout se termine par une belle fête où l'on chante, où tout le monde est joyeux. Mais ce n'est pas ainsi que se termine le livre de Néhémie. Et c'est certainement utile pour notre instruction. Comme dit Paul en 1 Corinthiens, chapitre 10, tout cela a été écrit pour notre instruction, pour l'instruction de l'Église. Tant que nous serons dans ce monde, il nous faut gérer les lendemains de fête. Et si on n'arrive pas à gérer les lendemains de fête, on a un gros problème spirituel. Donc ce texte d'aujourd'hui est là, tout exprès, pour nous aider à gérer les lendemains de fête, pour stimuler notre réflexion, pour orienter notre action. Et donc, on va aller dans deux directions. Tout d'abord, on va parler de persévérance, dans la durée, et puis ensuite de persévérance dans la foi et la conduite. La première direction vers laquelle le texte nous oriente est celle de l'organisation dans la durée. La fête implique une organisation, un effort collectif auquel tous participent, c'est vrai. L'investissement est souvent important, mais tout ça c'est limité dans le temps, ça dure un jour, deux jours, trois jours une fête. Et parce que l'engagement est limité dans le temps, il est plus facile de trouver des bonnes volontés pour faire la fête. Après tout, une fête s'accompagne d'un élan. Il y a un élan qui se crée, il y a un élan qui nous entraîne. C'est la joie, la spontanéité, c'est la ferveur. Mais dans la durée, les choses sont plus difficiles. On est tous d'accord de faire des choses spontanément pour quelques jours. Mais dans la durée, faire les choses dans la durée, c'est plus difficile. Les choses sont plus difficiles dans la durée, mais elles sont d'autant plus importantes. Et la fin du chapitre 12 le met bien en évidence. Dans la fête qui précède, le personnel du culte, les sacrificateurs, les lévites, et parmi eux les musiciens et les chanteurs, sont constamment mentionnés. Donc ça veut dire que ces personnes qui sont dédiées au culte ne s'improvisent pas lors d'une fête. Elles doivent être organisées. Elles doivent être entretenues dans la durée, comme la loi de Moïse le prévoit, avec en plus des aménagements apportés par David et Salomon pour intégrer la musique dans les fonctions des Lévites. Ça implique des locaux aussi, pour entreposer les offrandes. Ça implique aussi donc ces locaux pour entreposer ces offrandes avant qu'elles soient réparties entre les bénéficiaires. Le texte en parle. Il faut aussi des responsables pour garder les locaux, gérer les stocks. Bien. Alors, bien des choses ont changé depuis. C'est vrai. Et aujourd'hui, donc, la vie d'une église locale, la vie d'une communauté chrétienne est différente. Cette vie que nous formons ici, en tant qu'église locale, s'organise différemment. Mais, quand même, elle s'organise de manière... Si c'est assez différent, il y a quand même une continuité. Il faut toujours une continuité dans l'engagement. Et il y a une continuité dans... On parle des locaux. Les locaux, il faut toujours les nettoyer. Il y a des locaux qu'il faut nettoyer, qu'il faut entretenir, qu'il faut réparer quand ils s'usent, tout s'use, qu'il faut rénover régulièrement. Il y a des services qui doivent être assurés régulièrement, comme l'instruction des enfants, comme la présidence des cultes, ne parlons que de cela, comme la présence aux heures d'ouverture au moment des cultes, comme l'accompagnement musical des cultes, c'est toujours à l'ordre du jour. Et puis aussi, il y a le domaine de la rétribution des pasteurs, la gestion au long des jours des finances de l'association. Tout cela... C'est la vie courante d'une église locale. Et on est bien forcé de constater qu'aujourd'hui, il devient plus difficile d'obtenir des engagements de service dans la durée. On pourra chercher bien des explications, et puis on peut en trouver des explications spirituelles, sociologiques, tout ce qu'on veut. On peut parler de la vie trépidante que nous menons. Oui. On peut parler des contraintes de la vie professionnelle, c'est vrai. On peut parler aussi de la répugnance des jeunes générations à s'engager dans la durée. Et ça, c'est dans plusieurs directions. Donc tout ça a des répercussions, forcément, dans nos engagements de service dans la durée. La succession dans le livre de Néhémie, dans ce chapitre 12, entre la fête et la routine... nous invite à réfléchir à la façon dont nous les concevons, cette fête et cette routine, et dont nous les opposons ou les associons dans notre vie spirituelle. On a tendance à privilégier la fête, on l'a dit, la spontanéité, la nouveauté, l'inattendu. Et on pense que ça serait la marque d'une authentique vie de foi. C'est comme ça qu'on pense les choses parfois. On pense qu'une profonde vie spirituelle, c'est ça. Et on oppose ça à la continuité des habitudes qu'on qualifie souvent de religion sans âme, sans vie. Mais ça, c'est une opposition qui n'est pas dans la Bible. Où est-il dit qu'il ne faut pas honorer Dieu par habitude? Où? Nulle part. Dans la Bible, il y a de bonnes habitudes, de saintes habitudes. Et ce que Dieu a en horreur, ce sont les mauvaises habitudes. Ce qu'il a en horreur, c'est que notre conduite contredise notre engagement. Alors, qu'en est-il des bonnes habitudes? Eh bien, elles ne peuvent qu'être bonnes en soi. Elles ne peuvent qu'être profitables à nous-mêmes et aussi à nos semblables et honorer Dieu. Et ces bonnes habitudes ont trois répercussions. Elles sont profitables à nous-mêmes, à nos semblables et elles honorent Dieu. Et dans la vie chrétienne, il faut associer les deux, la joie et la routine. Et au chapitre, et on voit ça dans notre texte, j'ai souligné en lisant, au chapitre 12, 43, il est parlé de la joie de la fête. Les gens se livrèrent aux réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Bien, joie. Et puis tout cela est complété au chapitre 13, verset 1, par plus de routine. Car Judas se réjouissait, toujours joie, se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste. Et on a dit que c'était, c'était vraiment être fidèle dans cet engagement. Donc la joie et la fête, la joie de la fête et la joie du service vont ensemble. Et puis dans la routine, il y a de la joie aussi, nous dit ce texte. Ils se réjouissaient de ce que les sacrificateurs étaient à leur poste. Dans la routine, il y a de la joie, même si elle fait moins de bruit que la joie de la fête. Et la joie qu'on trouve dans la routine, c'est la joie du service rendu, tout d'abord, dans la continuité. C'est la joie aussi de ceux qui bénéficient du service. Et puis, c'est la joie donc de ceux qui le rendent. Il faut que nous associons la routine du service et la joie du service. Il faut que l'on vive les deux ensemble dans notre vie chrétienne. Donc, accomplir cette tâche avec conscience, régularité et joie. Et c'est cela qui peut donner envie de rendre service. C'est ça qui peut donner à d'autres personnes qui n'ont pas encore compris cette dimension, qui hésitent à s'engager dans le service. C'est ça qui peut donner envie de rendre service. Des gens vont dire, alors, eh bien, j'avais une mauvaise image du service chrétien, mais je me suis trompé. Le service chrétien dans la joie est possible, parce que les gens que je vois vivre ce service dans la joie, eh bien, le vivent vraiment, à la fois dans le service persévérant et dans la joie. Et donc, c'est un beau défi à relever. Et ça permet de progresser, d'abord, ça permet de progresser spirituellement soi-même. Ensuite, ça permet d'aider, comme on l'a dit, les autres à avoir une image positive du service. Et par-dessus tout, surtout, ça permet d'honorer notre Seigneur Jésus, qui est venu dans le monde non pas pour être servi, mais pour servir, donner sa vie pour plusieurs, pour beaucoup. Donc voilà le premier enseignement, l'importance et la joie du service dans la durée. Et puis notre texte nous parle de persévérance dans la foi et la conduite. Et là, c'est Néhémie qui nous montre l'exemple. Néhémie a dû s'absenter de Jérusalem. C'est la deuxième partie de notre texte. Il a dû s'absenter de Jérusalem. Il a dû aller en Perse rendre des comptes à l'empereur, donc le roi Artaxerxès. Et c'est normal. Après 12 ans, on n'a pas vu le temps passer, nous, avec Néhémie, j'espère. Ça n'a pas duré 12 ans. Ça a duré 3-4 mois, notre méditation. Mais là, c'est 12 ans. Après 12 ans de mission à Jérusalem, c'est un peu normal de rendre des comptes. Mais il a dû partir peut-être aussi pour une autre raison. C'est que ses adversaires, dont Tobia et d'autres, l'accusaient. Et s'il a dû partir, c'est pour se défendre auprès de l'empereur, auprès du roi Artaxerxès. Et donc, à son retour, Néhémie, on le voit, prend des mesures énergiques pour corriger les abus apparus dans la communauté pendant son absence. Et donc, on voit que les gens originaires de Moab et d'Ammon, donc les peuples qui sont au-delà du Jourdain, sont exclus de l'assemblée. C'est des peuples païens qui pratiquent le paganisme. Et donc, on voit aussi que les affaires de Tobia, eh bien, lui-même, originaire d'Ammon, sont jetées hors du temple. Alors, on est un peu embarrassé par la force des mots. Et notre première réaction, c'est très vite de dire, ça, c'est l'Ancien Testament, grâce à Dieu, ça ne nous concerne plus. Voire. Certes, dans le Nouveau Testament, l'Église n'est pas lié à un peuple, une nation, une race. L'Église réunit des personnes de toute origine, de toute nation, de toute race. Nous sommes tous un en Christ, de par notre conversion, de par notre réconciliation avec Dieu, notre communion avec le Seigneur Jésus. Et ça ne dépend pas, donc, cette unité de notre origine, mais ça dépend donc de du salut que le Seigneur nous a apporté à chacun. Donc il n'y a plus de séparation, il n'y a plus d'exclusion. Et le salut est annoncé à toute créature. Ça, c'est la nouvelle alliance. Mais cette différence ne doit pas être mal interprétée. Déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait des exemples d'accueil dans la communauté d'Israël de personnes appartenant au peuple devant être exclues. Si les étrangers se convertissaient à la foi juive, s'ils se convertissaient au Seigneur, l'Éternel, ils étaient les bienvenus. Et on voit que Ruth, la Moabite, eh bien, s'est détournée de son paganisme et a suivi Naomi en Judée. « Ton Dieu sera mon Dieu ». Une conversion profonde de Ruth. Elle est devenue l'ancêtre, bien sûr, des rois et du Messie. Et donc, si Dieu, et on voit aussi que dans l'Ancien Testament, si Dieu défendait l'alliance avec les Moabites, etc., ce n'était pas par racisme envers un peuple, car Dieu aime tous les peuples. Et en Deutéronome 10-18, Dieu aime l'immigrant et lui donne nourriture et vêtements. Et en Ésaïe 42-6, Dieu exprime le désir que les hommes de toute nation soient, puissent le connaître un jour et l'adorer. « Je t'établis, dit-il au Messie, pour être la lumière des nations, la lumière des nations païennes. » Donc ces textes expriment là, surtout la nécessité de se tenir à l'égard des mauvaises influences. C'est ça. Et donc si les Israélites restent attachés à Dieu, ils devaient donc se détacher et ne pas faire de compromis avec le paganisme des Moabites, avec le paganisme des Ammonites et des Philistins, et de tous les peuples qui l'entouraient à droite, à gauche, en haut, en bas. Et donc, c'était pour qu'ils ne se laissent pas, qu'ils s'attachent à Dieu et pour qu'ils ne se laissent pas entraîner par les pratiques religieuses de leurs voisins. Je rappelle pour mémoire que la religion moabite comportait des rites inacceptables, qu'on a rarement vu dans la suite des temps, comme les sacrifices d'enfants au dieu Kemosh, Kemok, si on veut. Et les Ammonites, donc, sacrifiaient aussi leurs enfants au dieu Moloch, encore plus connu. Et on a retrouvé, les archéologues ont retrouvé des milliers de corps d'enfants carbonisés, là où cette religion moabite, ammonite plutôt, a été implantée. Donc, derrière tout ça, le principe reste vrai. Et il reste vrai aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. L'Église est la communauté de ceux qui ont la même foi, qui croient en l'amour de Dieu en Jésus-Christ, à un seul Dieu, et qui adopte une même conduite. Et ça trace une limite, forcément. Si on fait partie de ce peuple, de l'Église, il y a une limite. Et il y a une limite entre ce qu'on croit et ce qu'on ne croit pas. C'est la Bible qui nous le révèle. Il y a une limite ensuite entre ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Il y a une limite. Et ce Tobia, l'ammonite, dont les affaires sont jetées hors du temple, est bien connu des services, on va dire. Comme on dit, il est bien connu des services de police. Là, il est bien connu des croyants. C'est un personnage malfaisant. On le voit depuis le début du livre. C'est un personnage arrogant. Il a été toujours en travers du chemin de Néhémie. Il s'est allié systématiquement aux opposants du peuple de Dieu, aux opposants dangereux du peuple de Dieu qui voulaient détruire ce retour du peuple de Dieu et la construction du temple et des murailles. Il a écrit des lettres de menace. Il a dénoncé Néhémie au roi à plusieurs reprises. Et il a tout fait pour empêcher la reconstruction des murailles de Jérusalem. Bien. Comme il n'avait pas réussi à décourager ni à interrompre les travaux de l'extérieur, maintenant il s'est dit, une fois que Néhémie est parti en Perse, qu'il pouvait agir de l'intérieur. De l'intérieur. Et donc, il va agir dans la famille, au sein, donc auprès du sacrificateur Eliashib. Et il va essayer, et il va arriver à ses fins, à s'unir par des alliances avec des hommes influents de Juda, dont Eliashib, le sacrificateur. Il a profité de l'absence de Néhémie pour lui donner, et ce Eliashib a profité de l'absence de Néhémie pour lui donner un local, une chambre, une pièce dans le temple, et en retirant tout ce qu'il y avait dedans, consacré à Dieu, pour mettre les affaires de Tobia. Donc Tobia avait marié un membre de sa famille à un membre de la famille d'Eliashib. Tout a commencé par là. Eliashib s'est ensuite laissé influencer par Tobia, et il avait pris donc des chambres du temple qui servaient d'entrepôt, et les avait transformées en un bel appartement, 3 étoiles, pour Tobia, qui, ne l'oublions pas, était un ammonite idolâtre. L'ennemi est dans le temple de Dieu, on nage en pleine confusion. Donc c'est ce contexte-là qu'il faut avoir dans l'esprit pour comprendre la réaction de Néhémie. Voilà un exemple concret de compromis en matière de foi et de conduite. S'il fallait trouver des exemples aujourd'hui, on en trouverait. Mais peut-être, ça nous semblait trop loin de nous. Alors, l'exemple que je vais citer est plus loin de nous, mais il montre l'horreur de ce qui se faisait. Un exemple aujourd'hui, ça pourrait être une église qui accepte pour pasteur quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Ça existe. Ou quelqu'un qui ne croit pas en la mort de Jésus pour nos péchés ou en la résurrection corporelle de Jésus. Ou accepter un pasteur qui a plusieurs épouses, etc., etc. Ça paraît tellement gros. Il y a des choses beaucoup moins grosses, mais qui sont tout aussi graves. Et donc, c'est ce genre de compromis en matière de foi et de conduite, et cette porte ouverte à cela, qu'avaient ouvert donc Eliashib et Tobia en l'absence de Néhémie. Donc aujourd'hui, ce n'est plus l'identité d'un peuple qui est en cause pour nous. C'est l'identité d'une communauté de croyants attachés à la vérité de la parole de Dieu, qui doit faire autorité sur notre foi et sur notre conduite. Cette parole de Dieu qui est la vérité et que nous voulons placer au-dessus de tout. C'est elle qui doit guider, c'est elle notre référence. Voilà ce qui est en jeu. Et la confusion aujourd'hui, c'est d'abord dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre conduite qu'elle ne doit pas s'installer. Et on ne doit pas laisser donc l'esprit du mal nous amener à faire concrètement des compromis. Et ça peut être différent pour chacun. Chacun doit aussi chasser sur sa propre terre dans ce domaine. Et c'est alors que nous pourrons continuer. Parce que c'est ça le but, c'est ça l'enjeu. C'est alors que nous pourrons continuer à être dans ce monde des témoins de la grâce et de l'amour de Dieu. Si Tobia avait gagné, eh bien, c'était la lumière que devait être Israël dans ce monde païen. Cette petite lumière qui brûlait encore dans ce petit endroit de Jérusalem, cette petite lumière qui aurait été soufflée et nous ne serions pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, c'est la lumière que le Seigneur a mis dans l'Église, cette lumière pour éclairer les païens qui sont autour de nous, qui est en jeu. Le monde a besoin de témoins fidèles de la grâce et de l'amour de Dieu. Et nous devons être attentifs à notre vie et à notre conduite pour que l'Église reste en cette lumière, ce témoin de la vérité, de la grâce et de l'amour de Dieu. Or, ma conclusion rassemble simplement les points que je viens de mettre en valeur. Donc, après la fête, après la réjouissance merveilleuse de l'inauguration, de l'accomplissement de 12 ans de travail, ce récit nous rend attentifs tout d'abord à la persévérance dans le service, à l'importance et la joie du service dans la durée. Et ensuite, ce récit nous rend attentifs à la persévérance dans la foi et dans la conduite, et donc nous amène à éviter, à renoncer à tous ces compromis pour être témoins dans ce monde. Que Dieu nous soit en aide. Amen.